La marche du monde.
Notre pays a besoin d'hommes de caractère, comme Wintin.
Son œuvre va tellement manquer au pays, ses talents de journaliste, son esprit de liberté et ses efforts pour la démocratie, les opportunités humaines et la réconciliation nationale.
Si Wintin est mort le 21 avril dernier, ses mots restent. La Marche du Monde vous propose de redécouvrir l'entretien exclusif accordé à RFI par Wintin, grande figure de l'opposition birmane. Un entretien enregistré en 2009 à l'origine de son livre intitulé « Une vie de dissident », un témoignage pour l'histoire, coécrit par Sophie Malibo, grand reporter à RFI.
La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
À travers la biographie de Wintin, c'est toute l'histoire de la dissidence birmane et du combat pour la démocratie qui nous est racontée. Cofondateur de la Ligue nationale pour la démocratie avec Aung San Suu Kyi, Wintin est arrêté un an plus tard, en 1988. Il passe près de 20 ans en prison où il a été torturé. Mais Wintin ne lâche rien. Et dès sa libération, il se jette corps et âme dans le combat politique et décide de témoigner. C'est ainsi qu'en 2009, Wintin donne un grand entretien à Sophie Malibo et Manu Pochaise, un document rare que je vous propose de redécouvrir aujourd'hui.
I studied in the Myanmar National School in Rangoon, which is very famous for nationalist activities and bring out many young patriots.
J'ai étudié à l'école Myoma de Rangoon, une école réputée comme le berceau des nationalistes birmans. De nombreux jeunes patriotes, vous savez, en sont sortis. Ils se sont illustrés dans la vie politique de notre pays. Par ailleurs, un de mes oncles appartenait au mouvement d'Obama Asiewan, autrement dit, nous, les Birmans. À l'époque, c'est un parti qui se définissait dans son opposition aux colons britanniques. Mon oncle avait été choisi parmi ceux qui allaient se rendre au Japon, au sein d'un groupe baptisé « Les 30 camarades », autour notamment de Bo Jio Aung San, le père de l'indépendance, mais aussi Ne Win et des autres. Pendant la période japonaise, il était l'un des officiers de l'armée birmane qui allait se battre contre les Britanniques avant de retourner les armes contre les Japonais. Pendant ma jeunesse, j'ai déjà pu rencontrer des amis de mon oncle et de nombreux jeunes gens qui allaient devenir pour certains des leaders nationaux, d'autres des communistes. J'avais alors une dizaine d'années et je comprenais bien ce qui se passait. On avait dû quitter Rangoon pour revenir dans le berceau familial à cause des bombardements à l'arrivée des Japonais. Pendant cette période, j'avais eu la possibilité d'apprendre l'anglais grâce à l'un de mes oncles bien placé dans l'administration anglaise. Mais cela est revenu aux oreilles des Japonais qui commencèrent à nous inquiéter, à se renseigner sur nous. Alors, je dus repartir sur Rangoon, apprendre le japonais. Puis de nouveau, Rangoon fut bombardé, cette fois par l'aviation britannique. Et après une année, en 1943, je revenais dans mon village natal. Il n'y avait alors pas grand-chose à faire, vous savez. C'est à ce moment-là que je suis devenu moine novice.
Les mots de Wintin dans La Marche du Monde. Il évoque son enfance birmane. Dans les années 40, Wintin devient novice. Une époque où son pays, la Birmanie, n'est pas encore indépendant, mais occupé par les Japonais, après l'avoir été par les Britanniques. Comme nous l'explique la grande spécialiste de la Birmanie, Claude Levenson, aujourd'hui disparu, le noviciat est une formation spirituelle et politique pour les jeunes Birmans.
Contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est, en Birmanie, les moines ont toujours joué un rôle en politique. Pas directement, je dirais, mais les moines sont finalement le refuge de la population civile. Donc quand quelque chose ne va pas, quand les choses tournent mal, la réaction première des Birmans, c'est d'aller au monastère, trouver une certaine consolation, mais surtout trouver le moyen de sortir d'un mauvais pas. Et donc, la plupart des jeunes gens, je dirais quasiment tous, surtout à cette époque-là, apprenaient d'abord à lire et à écrire au monastère, avant d'aller à l'école, avant d'être scolarisés. Les Birmans sont restés assez fidèles à cette tradition qui perdure aujourd'hui. Et à l'époque, je pense que pour un jeune garçon comme Wintin, l'apprentissage des principes fondamentaux de la religion ou de la manière de voir la vie qu'ont les bouddhistes préparait déjà le terrain à venir. Des moines en Birmanie ont pris la tête de mouvements indépendantistes déjà dans la lutte contre les Britanniques. Et chacun des leaders, Aung San ou nous, d'autres grands leaders qui ont formé la Birmanie d'après-guerre, ont eu tous derrière eux une formation monastique. Donc, si vous voulez, la religion, ou ce qu'on appelle le bouddhisme, qui peut être, je le souligne, une philosophie de vie aussi, joue un rôle très important dans le fonctionnement de la société.
Sophie Malibaud, le noviciat, c'est aussi une forme de formation politique, on le comprend, surtout à l'époque, lorsqu'on est un pays colonisé. En ce qui concerne la dimension plus religieuse, le bouddhisme, est-ce que vous avez le sentiment, vous qui connaissez bien l'histoire de Win Thin, que cette dimension religieuse a un rôle important dans sa lutte, dans son combat?
En fait, il relativise. Claude Levinson, vous venez de parler de la philosophie. Je crois que c'est ça qu'il retient Win Thin. C'est la philosophie, le culte, etc. Non, il a beaucoup de distance par rapport à ça. Il le dit vraiment, il insiste beaucoup. C'est un intellectuel, un laïc. Il raisonne dans d'autres termes. Et il raisonne aujourd'hui par nécessité en termes politiques. Même en tant que journaliste, c'est pas d'emblée ce qu'il aurait voulu faire. Il n'a pas opté pour le journalisme militant. Il y a été contraint. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, en religion, ce n'est pas un militant du bouddhisme, mais c'est vrai qu'on ressent dans sa philosophie qu'il est imprégné de cette religion.
Permettez-moi juste d'ajouter, c'est aussi quelque part ce qui fait tenir Suu Kyi. Ça, il ne faut pas l'oublier quand on se rend compte de ce qu'elle a vécu ces dernières années, récemment en prison, auparavant en résidence surveillée. Le fondement de sa résistance se trouve dans le bouddhisme.
Ainsi que le fondement de leur façon d'opter pour la non-violence.
Exactement.
C'est ça qui est très important. Ils y tiennent très fermement et ils sont très solides dans leur tête sur ce principe.
Et dans les années 40, dans un contexte d'occupation de la Birmanie par le Japon, après la colonisation britannique, un homme incarne la résistance et le combat pour l'indépendance. C'est Aung San, le père de Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix. Win Thin nous raconte sa rencontre avec le nationaliste Aung San.
I met him around about 20th of March 1945. It's about a week before the resistance in the small village, Shanzhou.
Je l'ai rencontré, je m'en souviens très bien, autour du 20 mars 1945, environ une semaine avant que les Japonais ne battent en retraite. C'était dans le petit village de Shanzhou. J'étais un jeune homme un peu timide, lui un homme fameux et très occupé, absorbé dans son travail au sein de la résistance. J'étais très impressionné, on n'avait pas le droit de lui parler. Ce n'était pas si facile de l'approcher. Tout le monde l'appelait Bodjok, le chef. Il était major général dans l'armée.
One of my uncles, only two men in our household at the time. So we have to bring out the water from the well, you see.
Il était arrivé de nuit, et en se levant au milieu de la journée, dans la chaleur du mois de mars, il a demandé de l'eau pour se laver. C'est comme ça que j'ai pu trouver le moyen de lui parler. Moi et un de mes oncles, nous étions les seuls hommes de la maison, nous sommes allés chercher de l'eau au puits, puis nous l'avons amené. Il restait silencieux, il réfléchissait tout le temps. Quand il est sorti du bain, je me suis lancé. J'ai demandé, est-ce que je pourrais rejoindre les rangs de l'armée? Il m'a demandé quel était mon âge. 15 ans, j'ai répondu. Tu vas à l'école? Oui, oui. Mais lui m'a répondu, il y a beaucoup de gens qui peuvent se battre. Tous les jeunes rentrent dans l'armée, mais nous allons avoir besoin de jeunes gens éduqués. Il faut poursuivre tes études. C'est tout ce qu'il m'a dit.
So he said, oh, you better study. See, that is all what he said.
Vous écoutez RFI, la marche du monde.
Win Thin raconte sa rencontre avec Aung San qui détermine son destin. Il deviendra journaliste et non pas soldat. Sophie Malibaud, de quelle façon va-t-il donc se battre?
Il a eu une petite tentative de prendre les armes qui s'est soldée par un échec patent. Il a tout de suite compris qu'il n'était pas fait pour ça et il s'est vite rappelé des principes édicté par Aung San. Bon, qu'il était fait plutôt pour la vie de l'esprit et pour l'écriture. Enfin, lui, petit à petit, a tracé sa route vers le journalisme et il va s'y tenir jusqu'au bout. Et donc, ça va façonner absolument toute sa carrière. Et il prendra les mêmes risques, finalement, qu'un combattant avec sa vie, puisque faire du journalisme dans ce pays, en Birmanie, au sens propre du terme, on risque sa vie. Donc, finalement, il va prendre la plume comme arme et il va s'y tenir jusqu'au bout.
Ce qui est très intéressant, Sophie, à la lecture de ce témoignage « Une vie de dissident » aux éditions Michel Lafon, c'est que Win Tin se montre très critique à l'égard des pays communistes qu'il visite. Il a fait notamment le voyage en Chine, comme beaucoup d'intellectuels, ou encore le voyage à Moscou. Alors, est-ce que cette critique apparaît sous sa plume de journaliste dans ses collaborations de l'époque ?
Oui, alors il avait acquis cette capacité, non seulement parce qu'il avait travaillé avec des médias occidentaux, il a été un des premiers correspondants de l'agence France Presse, par exemple, à Rangoon. Il nous explique d'ailleurs qu'il travaillait grâce au Morse.
Je précise que le Morse est un langage codé, hein, une façon de communiquer pour ne pas se faire comprendre.
Alors, ce qui se passe, c'est que, en fait, son parcours montre qu'il y a eu ce sens critique, puisque, certes, on l'envoie à Moscou, on le voit en photo d'ailleurs au pied de cette statue de Lénine, c'est assez drôle, Lénine qui domine tous ces journalistes de très haut. Et lui, il revient, il écrit un livre à ce moment-là où il explique que, en fait, il s'aperçoit qu'il y a des réalisations intéressantes, etc. Mais il voit bien que la liberté de la presse, ça n'existe pas. Quant à la Chine, à ce moment-là, il est extrêmement gêné parce qu'on l'empêche de décrire carrément ce qu'il a autour de lui. Et ensuite, il a fait des voyages, notamment qui l'ont emmené jusqu'aux Pays-Bas, où il a vécu à un moment donné dans une famille hollandaise. Et tout ça a nourri son esprit et lui a donné un regard sur la société, l'organisation de la société, extrêmement original par rapport au Birman de l'époque. Et donc, il avait des outils qui lui permettaient d'analyser ce qui se passait entre l'Ouest et l'Est et le degré de liberté peut-être des sociétés sous le diktat du communisme ou du socialisme.
Le père de la nation birmane est assassiné en 1947. Il ne verra pas la naissance de la Birmanie en 1948. Il ne verra pas non plus sa petite fille grandir en Aung San Suu Kyi. 48, je le précise, c'est aussi l'assassinat de Gandhi en Inde, un autre maître à penser pour Win Tin, adepte de la non-violence. Win Tin vit les premières années de démocratie en Birmanie, un pays en proie à de nombreux conflits internes où l'armée va prendre le pouvoir en 1962.
Inter-actualité.
Joseph Paltou, quelques nouvelles étrangères encore. Coup d'état militaire en Birmanie, rappelons-le. Le premier ministre Unu a été renversé par le général Ne Win.
Le soleil radieux, c'est la signification de Ne Win en birman, remplace Unu, le tendre, toujours en birman. Le général Ne Win, l'homme fort de l'armée birmane, en est à son deuxième coup d'État, mais la dernière fois, en octobre 58, c'était avec la complicité de M. Nu lui-même. Aujourd'hui, M. Nu est arrêté. Plusieurs membres du gouvernement sont en résidence surveillée à leur domicile. Le calme régnerait dans les rues de Rangoon. Tout s'est passé sans trop d'effusion de sang. Des coups de feu ont bien été entendus près de la résidence du président birman et le fils du président aurait été mortellement blessé par une balle perdue.
C'est une archive INA et c'est dans la marche du monde. Claude Levinson, 62, c'est l'installation de la junte au pouvoir en Birmanie. La démocratie n'avait-elle aucune chance de s'installer dans ce pays ?
C'est toujours difficile de dire non, elle avait des chances. La démocratie peut s'installer dans les conditions les plus difficiles et elles étaient peut-être réunies. Peut-être que Unu, qui a pris la relève après l'assassinat de Aung San, peut-être que Unu était trop imprégné de principes bouddhistes dans un monde trop dur, hein, où les rébellions ethniques ont commencé aussitôt. Les rébellions ethniques, c'est-à-dire ce sont les peuples qui entourent la plaine birmane centrale où vivent les Birmans. Et Aung San était parvenu à un accord avec les principaux chefs de ces peuples pour envisager une espèce de fédération, une union birmane qui permettrait aux autres peuples, si les choses ne se déroulaient pas comme chacun l'espérait, comme du moins Aung San l'espérait, une possibilité de se séparer et d'acquérir leur indépendance. Or, après la mort d'Aung San, UNU s'est trouvé confronté à ces revendications dites ethniques et l'armée birmane s'est proclamée, c'était probablement nécessaire, s'est proclamée gardienne et protectrice de l'intégrité territoriale. C'est un alibi que s'accordent très volontiers les militaires dès qu'il y a menace à leurs yeux sur l'intégrité territoriale, sur les frontières du pays, ce qui explique en grande partie le coup d'État de Ne Win, qui regardait de haut UNU, un intellectuel, un érudit, un idéaliste peut-être, mais quelqu'un qui avait la capacité effectivement de mener la Birmanie sur le chemin de la démocratie. D'ailleurs, je le rappelle très brièvement, quand Suu Kyi a fait son apparition sur la scène politique birmane, UNU était quasiment à ses côtés. C'est ensemble qu'ils ont fondé la Ligue pour la démocratie.
Sophie Malibu, en ce qui concerne Win Thin, à titre personnel, comment a-t-il vécu ce coup d'État, cette arrivée de la junte? Et surtout, qu'est-ce que ça change à ce moment-là dans son quotidien de journaliste?
En fait, à ce moment-là, ce qu'il reconnaît, c'est que il y avait un problème au niveau du pouvoir civil, c'est-à-dire qu'il y avait quand même beaucoup de divisions internes et de luttes interpersonnelles. Et ça a miné complètement le régime de UNU au point de le rendre inactif et finalement assez peu productif. Et par rapport aux militaires, eux, unis d'un bloc qui pouvaient faire des infrastructures, il y avait une différence. Et c'est ce que Win Thin explique, c'est la raison pour laquelle les gens ne se sont pas soulevés directement à ce moment-là contre les militaires. C'est qu'il y avait une sorte d'incurie du pouvoir civil qui a fait que le coup d'État est passé comme ça, on l'a entendu dans l'archive, sans effusion de sang, quelques coups de feu. Bon, et puis ça y est, les militaires sont arrivés. Par contre, au niveau de la liberté d'expression, etc., là, ça a été le coup près pour les journalistes. Tout d'un coup, ils ont dû travailler différemment.
Nous redécouvrons l'itinéraire de Win Thin, grande figure de la démocratie birmane dans la marche du monde. Win Thin, très impressionné par sa rencontre avec le père de la nation birmane, Aung San, et c'est justement avec la fille d'Aung San, Aung San Suu Kyi, que Win Thin fonde la Ligue nationale pour la démocratie, la LND, en 1988, comme vous l'entendrez, juste après les infos sur RFI.
Réunissons-nous, soyons unis pour montrer notre force. C'est comme ça que nous toucherons au but après un si long chemin. Notre histoire, c'est nous qui l'écrirons, grâce à notre force, à notre victoire.
Mes chansons parlent du contrôle logique et mental qu'exerce le pouvoir sur nous depuis toutes ces années. C'est pour ça que nous sommes restés coincés dans ce système si longtemps. Nous ne pouvons pas réagir, car nous sommes tétanisés par la peur de ce pouvoir qui nous menace avec ses armes. Les gens pensent qu'ils sont condamnés à vivre sous la tyrannie. La peur est toujours à l'intérieur de nous, mais nous devons la combattre de toutes nos forces. Yeah, 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 yeah